puis continue à prier. Il peut aussi s'attaquer à ton corps physique en te faisant ressentir de la fatigue même après avoir pris suffisamment de repos, en te mettant de mauvaise humeur, en te donnant sans raison un sentiment de lassitude ou encore en enlevant soudainement ta paix pour que tu ne puisses pas avoir le calme nécessaire pour prier. Il peut encore faire bruyamment et avec insistance sonner le téléphone juste au moment où tu te mets à genoux pour prier ou encore envoyer quelqu'un te rendre visite juste au moment crucial. Il peut aussi te faire penser à une chose qui te semble urgente et te donner l'impression que tu dois l'accomplir immédiatement sous peine de malheur. Il peut enfin te dire que ce n'est pas le moment de prier et que l'occasion sera plus favorable. Page 25. Quand la nuit sera venue et que tout sera calme. Mais, la nuit venue, il essayera de t'abrutir de sommeil? Nous devons savoir que toutes ces choses sont les méthodes de l'ennemi. Il nous fera résister à ce sentiment de fatigue. Il nous sera alors très utile de nous mettre à sauter. Il nous faut réclamer la victoire sur nos humeurs. Il nous faut aussi réclamer au Seigneur notre paix. Après tout, le Seigneur nous a laissé la paix pour héritage lorsqu'il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point » Jean 14, 27. S'il se présente un visiteur, nous devons poliment et courageusement lui dire que nous sommes justes, sur le point de prier qu'il pourrait attendre ou repasser. Cela te semble-t-il impoli de le faire attendre ou de le renvoyer? Eh bien, juge toi-même. Mais je pense qu'il est énormément plus impoli de faire attendre ou de renvoyer Dieu, avec qui l'on a pris rendez-vous. Il nous faut insister là-dessus et ne jamais remettre à plus tard le moment de la prière. Ce moment de la prière est l'une des choses qui ne peuvent pas attendre. Il ne doit pas attendre. Une attaque totale de l'ennemi, le processus par lequel l'ennemi s'acharne contre Job est très instructif. Il lui enleva toutes ses richesses ainsi que ses enfants en un jour. Plus tard, il lui enleva la santé. Ce fut une attaque brusque et soudaine dans tous les domaines. Celle-ci avait pour but de le forcer à capituler. L'ennemi continue à le faire aujourd'hui. Il désire le faire à l'encontre des saints qui prient. Comment peut-on sortir vainqueur d'une telle situation? Je suggère que ce soit par la persévérance dans la prière, quoi qu'il advienne. Toutefois, je pense que les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu'on l'attaque le premier. Avant la guerre des six jours, entre l'Égypte et Israël, nous savons que l'Égypte était dotée d'un nombre d'avions de guerre bien supérieur et aurait pu anéantir Israël. Comment Israël a-t-il fait pour remporter la victoire? Il a vaincu en détruisant les avions ennemis alors qu'ils étaient encore au sol avant qu'il n'ait le temps d'attaquer. Les Israéliens, page 26, frappèrent les avions égyptiens sur leurs aéroports avant qu'ils n'aient eu le temps de décoller pour frapper Israël. Je crois de tout mon cœur, et j'en sais quelque chose par expérience, que, pour le croyant, le moyen le plus sûr est d'attaquer le diable avant qu'il n'attaque. Il faut mener le combat en le gardant dans son territoire et en étant l'agresseur. Le chemin de la victoire, pour le croyant, nous avons déjà suggéré quelques moyens par lesquels le croyant doit réagir devant l'attaque du malin afin d'assurer le maintien de sa vie de prière. Cependant, il y a une faille dans ce qui a été suggéré ci-dessus parce que cela suppose que le diable ait attaqué la vie de prière du disciple et que par conséquent celui-ci doit faire quelque chose en retour. Comme nous l'avons déjà dit, cette tactique est dangereuse, car elle laisse toujours au diable la possibilité de remporter quelques batailles. Nous avons dit que la meilleure stratégie à suivre était de combattre dans le camp ennemi afin de lui faire souffrir le plus de pertes possible dans la bataille. Il faut attaquer le diable le premier, faisant ainsi échouer tous ses efforts et ses plans. Nous croyons que le chrétien n'a aucun autre substitut à cette tactique de combat s'il veut une victoire certaine. Veiller dans la prière veillée est un aspect crucial et indispensable dans la prière victorieuse. Nous croyons que les 40 jours de jeûne qui précédèrent le ministère terrestre du Seigneur furent passés en grande partie à veiller dans la prière. Plus tard, il nous recommande le même ministère en des termes très clairs. En fait, il nous ordonne de le mettre à exécution. Il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Matthieu 24, 42-43. En un sens, particulièrement en ce qui concerne la prière, le diable est un voleur qui ne vient que pour dérober et détruire. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Page 27. Matthieu 26, 41. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 2, 36. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc 13, 33-37. Évidemment, ces passages s'appliquent à la veille et à l'attente de notre Maître, le Seigneur de gloire qui revient. Mais ils s'appliquent aussi bien à nous, car l'autre Maître, non pas notre Maître, mais un Maître quand même, le diable, se prépare sûrement à venir, non pour le bien, mais pour le mal. L'apôtre Paul le recommande: persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4, 2. En exposant comment il avait accompli son ministère, qui fut d'une grande portée, pour le Seigneur Jésus, il dit dans les veilles, dans les jeûnes. 2 Corinthiens 6, 5. Le Seigneur Jésus nous a appelés à veiller et à prier. L'apôtre Paul fait la même chose. Nous n'avons pas d'autre choix si nous devons demeurer victorieux. Que l'exemple de Pierre nous serve d'avertissement. Dans le jardin de Gethsémané, le Seigneur leur ordonna de veiller et de prier afin de ne pas entrer en tentation. Au lieu d'obéir, ils s'endormirent. Peu de temps après vint la tentation. L'un de ceux qui s'était endormi, au lieu de veiller, céda à la tentation et renia le Seigneur. S'il avait obéi à l'instruction du Seigneur et s'il avait veillé et prié, l'histoire aurait certainement été différente. Au moment où les aiguilles de l'horloge de Dieu avancent vers la fin de cet âge, le diable, et il est déjà en train de le faire, va engager ses armes les plus puissantes contre l'Église, tout particulièrement contre ceux qui ignorent l'ordre de veiller que nous donne le Seigneur. Page 28. Qu'est-ce que veiller dans la prière? Veiller, c'est être dans un état spirituel et physique évidemment pleinement alerte et calme devant le Seigneur, afin qu'il puisse nous révéler certaines choses en ouvrant notre cœur et notre esprit à des aspects que nous n'aurions pas découverts autrement. Pendant que nous veillons, le Seigneur ouvre nos yeux pour voir comment le diable planifie ses attaques contre la volonté de Dieu d'une façon ou d'une autre. Ceci peut inclure une attaque contre le ministère de l'Église, contre nos corps, etc. Bref, tout ce que l'adversaire aimerait frapper. Quand je veille, je le fais habituellement avec un crayon et du papier près de moi pour prendre des notes au fur et à mesure que le Seigneur me montre les plans du malin, afin que je sache alors comment les contrer. Lorsque cette phase de veille est terminée, je discute avec le Seigneur pour savoir si je dois aborder l'ennemi par une action défensive ou une action offensive. Que ce soit pour l'écraser lorsqu'il attaque ou pour savoir comment informer au mieux ce qu'il veut attaquer, pour qu'il se prépare à se défendre, ou que ce soit pour mener une action offensive, si le Seigneur me le recommande, je discute avec lui du plan d'action, de la stratégie, du moment de l'attaque, etc. Ceci fait, ma veille est terminée en ce qui concerne l'attaque de l'ennemi. J'ai alors assez de choses pour lesquelles il me faut prier. Attaquer le diable dans la prière, normalement, le croyant œuvre pour être en paix avec tous les hommes. Cependant, nous ne devons jamais être en paix avec le diable. Tant qu'il continue à occuper ne serait-ce qu'un pouce du territoire qui a été conquis par le Seigneur Jésus au calvaire, nous devons l'attaquer et lui causer du tort. Aucun croyant ne devrait se reposer tant qu'il n'a pas personnellement causé de nombreux dégâts au diable. Page 29. Permets-moi de te poser quelques questions personnelles. Le diable porte-t-il les cicatrices des blessures que tu lui as infligées? Y a-t-il des zones endommagées dans son territoire et dans ses projets qui témoignent de tes attaques contre lui? Gémit-il amèrement, disant: si ce n'était à cause de celui-là, mon royaume serait plus fort. Certes, les fondations de son royaume ont été détruites au calvaire par notre commandant en chef victorieux, le Seigneur Jésus. Cela ne pourra jamais se répéter. Cependant, nous avons la responsabilité de renverser le royaume du diable. Nous pouvons et nous devons le renverser parce que ses fondations sont déjà détruites. L'arme principale à utiliser contre le diable est la prière. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'armure du chrétien, il place en dernier lieu l'arme la plus importante, la prière. C'est l'arme contre laquelle l'enfer tout entier est impuissant. Paul dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Éphésiens 6, 18-19. Que faisons-nous dans ce genre de prière? Demandons et brisons le Seigneur, dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Psaume 2, 8-9. Nous demandons au Seigneur les nations afin de les amener à connaître le Seigneur Jésus et à être sauvés. Pour cela, nous devons renverser la barrière dressée par le diable qui les tient en captivité. Ainsi, dans la prière et par la prière, nous détruisons le royaume du diable en prenant chaque aspect de celui-ci et en le mettant en pièces au nom de Jésus. Frères, le royaume du diable a un point faible, c'est un point qui est découvert dans la prière et que le croyant ne peut détruire que dans la prière. Ce royaume apparemment fort est très fragile pourvu que l'on utilise les armes appropriées. On peut avoir beaucoup de mal à casser une pierre à l'aide d'un bâton, mais c'est très facile quand on se sert d'un marteau. Si nous utilisons les armes appropriées, nous verrons que le royaume du diable est comme le vase d'argile d'un potier. Même si l'argile est dure, elle, page 30, doit céder à un martelage persévérant, surtout celui qui met en œuvre le jeûne, la louange et l'action de grâce. Les martelages persistants que constituent les supplications vont renverser le royaume du diable, même si les premiers coups n'arrivent pas à le faire. Exerçons la vengeance et exécutons le jugement. La parole de Dieu dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour ses fidèles, psaume 149, 5-9. C'est là quelque chose de merveilleux. Nous devons louer et combattre en même temps. Nous devons dans le même temps adorer le Seigneur et punir le diable. Ici, il ne s'agit pas de louer seulement ou même de combattre exclusivement, mais de louer et de combattre avec action de grâce. Le croyant ne peut pas être vaincu dans une telle bataille. Il doit vaincre. Que doit-il faire pendant qu'il prie et pendant qu'il loue? Il faut qu'il prenne le glaive à deux tranchants de la prière contre le diable et ses alliés. Il doit renverser les nations alliées du diable. Il doit lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer et prononcer le jugement de Dieu sur eux à cause de leurs péchés et ensuite, les ayant liés avec des chaînes, c'est-à-dire les ayant assujettis, il doit à l'aide de la prière les amener à la connaissance du Seigneur Jésus qui sauve. Ceci est le partage de tous les fidèles de Dieu. Une telle prière est pour tous les saints. Elle détruit l'enfer. Elle bâtit le ciel. Rappelle-toi que nous lions les rois et les grands pour les empêcher de s'opposer à la volonté de Dieu et paralyser leurs actions. Dans la prière victorieuse, nous ne pouvons pas lier avec autre chose que des chaînes et des ceps de fer. Mais le but est bien plus élevé. Il s'agit d'emmener aux pieds du Seigneur Jésus ces prisonniers liés et désespérés. Page 31. Cher saint, tu peux mettre sous tes pieds des rois, des présidents et des grands en priant comme il convient. C'est toi qui disposes de l'autorité finale après le Seigneur? Dieu veut que tu aies maintenant, par la prière, un avant-goût du gouvernement qui sera le tien dans le royaume? Saisis-le, c'est pour toi? Paye le prix et exerce cette autorité par la prière? Qu'en est-il des arguments insensés avancés par ceux qui ne veulent pas croire au Seigneur Jésus? Pouvons-nous affronter de telles armes du malin? La réponse de la Bible est oui. 100 fois oui. La parole de Dieu dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 4-5. Oui, nous avons des armes divines. Nous menons un combat spirituel par la prière. Nous pouvons détruire tous les arguments qui s'élèvent contre le Seigneur et son évangile. Nous sommes capables de détruire toute hauteur, y compris le diable, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous sommes capables d'amener toute pensée humaine captive à l'obéissance de Christ. Nous pouvons diriger, conquérir et amener toutes sortes de personnes à l'obéissance de Christ. Cependant, il y a un prix à payer pour accomplir cela. La Bible dit « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète » 2 Corinthiens 10, 6. Seul celui qui est pleinement obéissant peut désarçonner complètement le diable. Dieu peut-il trouver des serviteurs tout à fait obéissants? Dieu trouvera-t-il des serviteurs dont l'obéissance est complète afin de les utiliser dans ce combat? Ton obéissance est-elle complète? Veux-tu lui permettre d'agir puissamment en toi maintenant pour rendre complète ton obéissance envers lui? Connais-tu le prix? Paye-le et sois vainqueur. Que faire si nous sommes sous une attaque? Il se peut que tu naisses de nouveau dans un pays où l'Église n'a pas réussi à mettre le diable à sa place ou la forteresse du diable. Page 32 est ainsi solidement établie. Tu peux aussi être un pionnier dans un endroit où Jésus n'a pas encore été annoncé et où le diable aurait donc l'offensive. Il se peut encore que tu sois soudainement et furieusement attaqué par le malin. Que faire? Le prophète Jérémie a une réponse pour tous ceux qui se trouvent dans de telles situations. Il dit au Seigneur, « Tu es mon marteau, mes armes de guerre, par toi je briserai le cheval et celui qui le monte, par toi je briserai le char et celui qui le conduit, par toi je briserai l'homme et la femme, par toi je briserai le vieillard et le jeune garçon, par toi je briserai le jeune homme et la vierge, par toi je briserai le pasteur et son troupeau, par toi je briserai le laboureur et son attelage, et par toi je briserai les gouverneurs et les chefs » Jérémie 51, 20-23. Nous devons faire de même, briser tout cela en morceaux et continuer à briser jusqu'à ce que tout soit réduit en miettes impuissantes. Le psalmiste ajoute un mot d'approbation pour un tel combat lorsqu'il dit « Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Psaume 118-12. C'est le chemin de la victoire. Un tel combat ravage le royaume de l'ennemi. Il le détruit et sème une telle confusion dans ce royaume que l'ennemi se retourne alors contre lui-même pour se détruire. L'exemple de Naomi avait reçu une mission divine, mais il devait faire face à des adversaires. Voici comment lui-même raconte l'histoire. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait une épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. Page 33. L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous l'a lancé à la main depuis le lever de l'aurore, jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui suivaient, chacun n'avait que ses armes et de l'onémie 4, 15-23. Il y a plusieurs leçons importantes dans ce texte. Ils étaient préparés à la fois à bâtir et à combattre. Une main travaillait et l'autre tenait une arme. Ils étaient tous engagés, sans exception. Pendant qu'ils bâtissaient, ils montaient aussi la garde et, la nuit, ils montaient encore la garde. Le temps est venu pour que les guerriers de Dieu dans la prière ne disent plus seulement que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, aussi merveilleux que cela puisse être. Ils doivent aussi renverser le royaume de l'ennemi par la prière et l'empêcher d'exécuter sa volonté. Il faut que nous fassions délibérément de grands efforts dans la prière, non seulement pour bâtir le royaume glorieux du Seigneur, mais aussi pour détruire le royaume du malin. Une partie de notre attention doit être consacrée à prier et à accomplir la volonté du Seigneur, et l'autre partie à détruire délibérément les plans du malin. Nous devons trouver de la joie et de la satisfaction dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous devons aussi trouver de la joie et de la satisfaction dans l'anéantissement des projets de Satan. Tout ce que nous ferons pour établir le royaume de Dieu aura son approbation, et tout ce que nous ferons pour renverser le royaume du diable aura aussi l'approbation du Seigneur. Au bout du compte, les deux choses sont intimement liées, car on ne peut pleinement établir le royaume de Dieu sans avoir d'abord anéanti celui de l'ennemi. Il est impossible de piller la maison sans avoir d'abord lié l'homme fort de la maison. Il nous faut lier le diable. Page 34. Des croyants individuels ne peuvent accomplir une telle tâche que dans une faible mesure. Dieu n'a pas confié cette tâche uniquement à des individus. C'est la tâche de toute l'Église. Dans chaque localité, c'est la tâche de l'Église locale. Il faut que chaque membre de l'Église soit impliqué. Au temps de Néhémie, il n'y avait pas d'exception. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des exceptions aujourd'hui. Je répète que c'est la tâche de toute l'Église que de mener avec Dieu dans la prière un tel combat contre le diable. L'Église doit monter une garde permanente contre le malin. Il ne suffit pas de prier 2 heures par semaine. Il ne suffit pas de prier une nuit entière par semaine. C'est bien, il faut l'encourager, mais ce n'est pas suffisant. Pouvez-vous imaginer une guerre dans laquelle l'une des armées combat quelques heures ou quelques jours et passe le reste du temps à faire autre chose et à dormir la nuit? Cela n'est-il pas encore plus difficile à comprendre quand on sait avec certitude que le camp ennemi est puissamment renforcé par une multitude de soldats de toutes sortes? Nous savons tous que le diable est plus actif pendant la nuit. Puisqu'il est le prince des ténèbres, il accomplit certains de ses plus grands exploits pendant la nuit. Que fait l'Église pendant la nuit? Elle dort. Que devrait-elle faire? Certains de ses membres devraient être en train de veiller et de prier. Depuis un certain temps, je réfléchis et je prie à ce sujet. Je ne vois qu'une seule chose à faire. Notre église locale à Yaoundé, en même temps que d'autres églises locales, devrait monter une veille de prière 24 heures sur 24. Il faudrait bien réfléchir à cela, bien prier pour cela, et le réaliser concrètement. À chaque minute du jour et de la nuit, il faudrait qu'il y ait, d'un côté des chrétiens en train de prier le Seigneur, et d'un autre côté des chrétiens en train de prier pour renverser le malin. Dieu combattra pour nous. Dieu combat pour nous. Puissions-nous combattre avec lui. Le Seigneur Jésus a dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis ». Puissions-nous aussi dire « Notre Seigneur combat pour nous, nous aussi, combattons avec lui ». Gloire à son nom. Page 35, chapitre 4. L'art spirituel de la prière, la volonté de Dieu, et l'attente devant Dieu, la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, puisque la prière est l'identification de la volonté du croyant à la volonté de Dieu, il est impératif que l'on connaisse la volonté de Dieu concernant un problème donné, avant de se mettre à prier. C'est quelque chose de vital, car Dieu n'exauce que les prières faites selon sa volonté. Le contenu et le but de la prière doivent tous deux s'accorder avec la volonté de Dieu. Dieu a promis de révéler sa volonté à ses enfants qui prient. Il a dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi » Psaume 32, 8. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, 9. Lorsqu'un croyant désire sincèrement connaître la volonté de Dieu au sujet d'un certain problème, Dieu ne le gardera pas dans l'ignorance ou dans une longue incertitude. Il va lui révéler sa volonté. Connaître la volonté de Dieu, par la prière, le croyant, qui cherche à connaître la volonté de Dieu dans un domaine quelconque, doit présenter ce sujet au Seigneur. Il doit prier et dire au Seigneur éternel, « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruise-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Psaume 25, 4-5. Ayant ainsi prié, il doit s'étendre au Seigneur. C'est alors que le Seigneur lui montrera clairement, dans son page 37, Esprit, quelle est sa volonté à ce sujet. Il peut faire confiance à Dieu pour que celui-ci lui révèle sa volonté. Cependant, pour recevoir la direction du Seigneur au sujet d'un problème, il faut que celui qui cherche la volonté de Dieu ait été conduit par le Saint-Esprit à un point où il n'a plus aucun intérêt égoïste dans ce problème. Il faut que le Saint-Esprit ait accompli une œuvre dans sa vie à ce sujet afin qu'il écarte ses intérêts et demande tout simplement quels sont les intérêts de Jésus dans ce problème. Je voudrais connaître les intérêts de Jésus et les faire miens. À ce niveau, quand aucun intérêt égoïste n'est présent pour rendre les choses floues, la volonté de Dieu est tout de suite connue. Il faut parfois du temps pour que le Saint-Esprit nous conduise au point où nous sommes spirituellement capables de recevoir la révélation de la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'attente dans la prière est quelque chose de très important. L'identification à la volonté de Dieu, lorsque la volonté de Dieu a été reçue dans la prière, le croyant doit permettre au Saint-Esprit d'agir dans sa vie de telle façon à qu'il puisse profondément aimer la volonté de Dieu, même si celle-ci met fin à ses espoirs chéris. Sans cet amour profond, pour la volonté de Dieu, il est difficile de trouver du plaisir à l'accomplir. Mais qu'il s'identifie complètement à la volonté de Dieu. Non seulement le croyant doit aimer la volonté de Dieu, mais il doit faire de la volonté de Dieu sa volonté. Il unit sa volonté à la volonté de Dieu, afin qu'il n'y ait qu'une seule volonté, la volonté de Dieu devenue la volonté du croyant. Ayant maintenant une seule volonté, qui est la volonté parfaite de Dieu, le croyant peut alors s'engager à prier pour que cette volonté s'accomplisse. Puisque la volonté de Dieu est bonne et parfaite, le croyant s'engage alors à insister dans la prière pour que Dieu accomplisse cette volonté. Il peut alors insister, pleurer, etc., sans se relâcher, car normalement Dieu ne change pas sa volonté. En priant donc à partir d'une position approuvée par Dieu, le croyant peut insister sans relâche, puisqu'il faut à tout prix que... Page 38. Cette volonté s'accomplisse. Il est prêt à insister jour après jour, mois après mois et année après année, avec la pleine assurance que l'exaucement viendra. Car comment se pourrait-il que Dieu n'accomplisse pas sa volonté? Le Seigneur a dit « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté » Ésaïe 46, 10. Un saint qui prie réellement est quelqu'un qui crie à Dieu nuit et jour en disant « Père, que ta volonté à ce sujet soit accomplie, quel que soit le coût pour moi ». Recevoir le fardeau, pour la volonté de Dieu, il ne suffit pas pour le croyant de s'identifier à la volonté de Dieu et de désirer qu'elle soit exécutée. Il faut aussi qu'il demande au Seigneur un fardeau spécial pour voir s'accomplir la volonté de Dieu et qu'il le reçoive. Ce fardeau fera peser très lourdement la volonté de Dieu sur son esprit, de sorte que la seule chose qu'il puisse faire pour être soulagé soit de le décharger par une prière continuelle. Ainsi, la prière deviendra une nécessité absolue pour vivre une expérience spirituelle normale, car qui pourrait tenir indéfiniment sous le poids d'un fardeau dont il ne se déchargerait pas? Le bon motif pour désirer la volonté de Dieu, il est possible qu'une personne s'engage à accomplir la volonté de Dieu parce que cette volonté coïncide avec sa volonté ou parce que cette volonté correspond tellement à sa propre volonté que le fait de l'accomplir ne lui coûte strictement rien. Il est possible que quelqu'un aime la volonté de Dieu et prie pour son accomplissement parce qu'elle flatte quelques motifs secrets ou parce que cela plaît à la chair. Si de tels mauvais motifs sont présents, il est évident que l'on ne peut pas pleinement satisfaire Dieu. La prière manquera de poids. Pour que la prière puisse satisfaire Dieu, il faut que celui qui prie cherche la volonté de Dieu afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Il ne faut pas qu'il ait des intérêts personnels dans le problème concerné. Si nous prions dans la volonté de Dieu, mais pour montrer aux autres combien nous sommes spirituels, nous n'obtiendrons absolument rien. Pour que nous puissions prier, page 39. Correctement, il faut que notre propre position soit correcte. Il ne faut pas seulement que nous connaissions la puissance du sang pour nous purifier du péché, mais il faut aussi que nous connaissions la puissance de la croix pour éliminer le moi. L'attente dans la prière, il y a plusieurs raisons importantes pour s'attendre à Dieu dans la prière. La plus importante concerne la préparation du croyant pour qu'il reçoive la révélation de la volonté de Dieu. Cependant, il y a d'autres aspects importants. L'attente comme moyen de nous préparer à parler à Dieu, mon Père bien-aimé, Salomon Tanifomom et moi étant des amis intimes. Notre relation allait bien au-delà d'une relation d'amour entre père et fils. Elle se développa en une amitié très profonde et je pouvais être parfaitement libre et transparent devant mon Père. Je pouvais lui parler de tout ce que j'avais à l'esprit. Quoique nous fussions si intimement liés, je n'ai jamais manqué de respect envers mon père, et je n'ai jamais oublié qu'il était mon père et que j'étais son fils. Jamais il ne m'arrivait de venir précipitamment en sa présence et de commencer à lui parler avec désinvolture et sans respect. Jamais je n'ai élevé la voix devant lui. Je venais toujours devant lui avec amour et respect, attendant tranquillement qu'il me questionne ou qu'il me montre tout simplement que je pouvais lui parler. Même pendant les dernières années de sa vie sur Terre, alors que notre relation avait mûri et atteint sa perfection, et après que j'eus réussi à obtenir des honneurs terrestres, ce respect demeura et grandit toujours. Dans le Seigneur Jésus, le Dieu éternel est devenu notre Père. Le Dieu éternellement saint a accepté, dans son amour compatissant, d'établir entre lui et nous une relation d'amour Père-Fils, nous qui n'avons pourtant qu'une sainteté créée en Christ. Nous ne serons jamais égaux à Dieu. Nous ne serons jamais égaux au Seigneur Jésus-Christ. La manière avec laquelle certains croyants entrent en la présence de Dieu ou s'adressent avec légèreté au... Page 40. Seigneur Jésus, sous prétexte qu'il est leur frère, m'a toujours dérangé. Je considère cela comme de l'impolitesse charnelle. La Bible dit « Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Ecclésiaste 4, 17, 5, 1-2. Ainsi, lorsque nous venons devant le Seigneur, approchons-nous avec respect. Laissons au Saint-Esprit le temps de créer en nous l'esprit paisible indispensable à la prière. Laissons-le créer en nous une sainte conscience de la présence de Dieu. Laissons-lui le temps de nous séparer totalement du bruit et des pensées du monde qui nous entoure, puis entrons en sa présence. Cette préparation de base est également nécessaire parce qu'elle nous aide à nous concentrer pour la prière. Ce manque de préparation avant d'entrer dans la présence de Dieu peut causer divers problèmes dus à un manque de contrôle de nos pensées dans la prière. Personnellement, j'ai découvert que la lecture de quelques versets de l'Écriture ou le chant calme d'un cantique de louange apaise mon être et me prépare à entrer dans la sainte présence de Dieu. Évidemment, en cas d'urgence, cela n'est pas toujours possible, ni même nécessaire, mais, de toutes les façons, la prière n'est pas seulement réservée à des cas d'urgence. C'est une communion avec Dieu. Si, après avoir passé un certain temps devant le Seigneur, nous ne ressentons toujours pas de calme dans l'homme intérieur, nous devrions continuer à demander au Seigneur de créer en nous ce calme spirituel. En le lui demandant, le Saint-Esprit peut nous montrer que ce manque de calme est dû à un péché, non confessé qu'il faut alors confesser, ou à une relation brisée avec quelqu'un, relation qu'il nous faut réparer aussitôt avant de pouvoir prier. S'il, page 41, nous fait la grâce de nous montrer cela, alors nous n'avons qu'une seule solution à obéir. Attendre pour connaître la volonté de Dieu, avant de commencer à nous attendre au Seigneur, nous devons être déterminés, dans notre esprit, à ne pas agir tant que Dieu ne nous aura pas clairement montré sa volonté. Car si nous venons devant le Seigneur lui demander de nous révéler sa volonté, et si, après avoir prié, nous allons accomplir une action quelconque sans avoir reçu la réponse du Seigneur, cela est une folie tragique. Tous ceux qui s'attendent au Seigneur doivent donc être déterminés à suspendre toute action jusqu'à ce que le Seigneur leur ait clairement montré sa volonté. Dieu révélera sa volonté à de telles personnes. L'attente leur sera d'un grand bénéfice. Ceux qui sont prêts à demander, mais non à attendre une réponse, ne devraient même pas prendre la peine de s'engager dans cet exercice. Nous acceptons d'attendre parce que nous savons que Dieu s'est engagé à révéler sa volonté à ceux qui le lui demandent et que même si cette révélation prend du temps pour venir, elle viendra néanmoins. L'attente est aussi une confession de notre propre ignorance concernant à la fois nous-mêmes et Dieu. Comme nous l'avons dit plus haut, il faut que le Saint-Esprit nous mène au point où nous sommes prêts à être conduits par lui dans n'importe quelle direction, sans avoir aucune ambition égoïste ou personnelle à ce sujet. Je trouve mon propre cœur tellement trompeur, que même quand je pense ne pas avoir d'intérêt personnel concernant un problème quelconque, je désire quand même m'attendre au Seigneur pour me laisser sonder par sa lumière, de peur de me tromper moi-même. Je dois chaque jour confesser non seulement mon manque de connaissance de Dieu et de ses voies, mais aussi ma profonde ignorance de ma propre personne. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de nous attendre à Dieu. La Bible dit « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier » Psaume 33, 20. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. car de lui vient mon espérance, psaume 62, 6. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut, psaume. Page 42, 62, 1. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, psaume 130, 5-6. En ce jour-là, on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Esaïe 25, 9. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Esaïe 33, 2. Dieu communiquera sa volonté en la révélant au cœur qui s'attend à lui. Il ne permettra pas que ceux qui s'attendent à lui soient confus. Il ne permettra pas qu'ils se trompent. Il s'approchera d'eux. Il sera pour eux une aide sûre. Attendre pour connaître nos sujets de prière même, après avoir reçu la révélation de la volonté de Dieu, nous avons toujours besoin de nous attendre au Seigneur pour qu'il nous dise comment prier pour que cette volonté s'accomplisse. Par exemple, le Seigneur peut nous révéler qu'il veut que nous touchions une certaine partie du pays par l'Évangile. Cela est bien. Cependant, une question se pose : comment devons-nous prier pour que cela se réalise effectivement ? Devons-nous tout simplement commencer à prier pour qu'il y ait des conversions dans cette région ? Je ne le crois pas. Il nous faut d'abord découvrir ce que le Saint-Esprit veut faire dans cet aspect particulier de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui dirige l'entreprise missionnaire de Dieu. Il est aussi celui qui dirige la prière profonde. Ayant connu la volonté de Dieu, il nous faut encore nous attendre à lui pour que le Saint-Esprit nous dise par où commencer dans la prière ? Il nous conduira peut-être à prier d'abord pour que le Seigneur place le fardeau du salut de ces gens dans le cœur de certaines personnes, afin qu'elles commencent à prier nuit et jour à cet effet. Il peut encore soit nous conduire à prier pour que des jeunes gens remplis du Saint-Esprit aillent porter l'Évangile, soit à prier pour un autre sujet. Une chose est certaine, il conduira ceux qui s'attendent à lui et il priera aux côtés de telle personne. Quelle bénédiction il en résultera alors ? Page 43. Attendre pour le renouvellement de nos forces dans la prière même, lorsque nous prions sous la direction spéciale du Saint Consolateur, il arrive parfois que nous soyons fatigués ou que le fardeau devienne si lourd qu'il nous écrase presque. À de tels moments, nous avons besoin de nous attendre au Seigneur pour le renouvellement de nos forces dans la prière. Le Seigneur nous ordonne de nous attendre à lui de la manière suivante, espérant l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espérant l'Éternel. Psaume 27, 14. Le commandement vient du Seigneur, et ceux qui obéissent y trouvent une bénédiction. La Bible dit il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Esaïe 40, 29-31. Est-ce la raison pour laquelle certains peuvent s'engager dans de puissants conflits spirituels, pendant des heures et des heures, sans avoir l'impression de perdre leur force, alors que d'autres sont complètement épuisés et écrasés après quelques minutes de prière ? L'attente et les besoins de Dieu, je l'écris très humblement mais avec beaucoup d'assurance, Dieu éprouve des besoins personnels qu'il a décidé d'éprouver dans sa souveraineté et qui ne peuvent être révélés qu'à un petit nombre de ses amis les plus intimes. Les amis les plus intimes de Dieu sont ceux qu'il aime d'une façon suprême et qui n'aiment que lui. Cet amour les conduit à passer des heures, des jours et même des années devant lui attendant qu'il leur révèle ses besoins. Pour de tels saints, une seconde passée à satisfaire les besoins personnels de Dieu vaut bien plus qu'un milliard d'années à servir les fils des hommes. Si tu es l'un de ces adorateurs suprêmes de Dieu, je t'invite à prendre l'habitude de te retirer pour t'attendre à lui. Il ne te... Page 44. Révélera pas ses besoins la première fois que tu iras t'attendre à lui. Il t'appellera à des périodes d'attente ultérieures, bien plus longues. À l'apogée de cette attente et de ce désir ardent de le rencontrer, il te révélera ses besoins. Après cela, ton service spirituel ne sera plus jamais, je le répète, plus jamais le même. Je me demande si tu sens dans ton cœur que tu peux oser entrer dans une telle marche avec Dieu. C'est merveilleux, mais il y a trois conditions fondamentales. Toutes les trois sont loin d'être en accord avec les désirs de la chair. Avant tout, il faut une extrême pureté. Dieu exigerait de toi une haine spéciale du péché qu'il semble ne pas exiger des autres croyants. Il exigera aussi de toi un degré de consécration à sa volonté et à ses desseins qui ne laissera aucune place à l'un quelconque de tes intérêts personnels. Deuxièmement, l'attente devant Dieu est une affaire solitaire. En quelque sorte, tu seras comme retiré du monde qui t'entourait enfermé dans le monde de Dieu. Malgré cela, au début de ton attente, Dieu semblera te retirer même sa présence dont tu as pourtant si désespérément besoin. Il faut dire que tu seras solitaire, séparé de l'homme et séparé de Dieu pour un temps. Es-tu prêt à t'engager dans cette voie ? Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, connut une souffrance semblable à Gethsémané.